réplique « Qu'est-ce que la vigilance ?» avec Edoui Plenel. Il y a 30 ans, l'historien et éditeur Maurice Olinder prenait l'initiative d'un appel à la vigilance. Publié dans le journal Le Monde le 13 juillet 1993, cet appel était signé par de grandes figures intellectuelles comme Henri Atlan, Georges Charpak, Jacques Derrida, Umberto Eco, Arlette Farge, Françoise Héritier et Jean-Pierre Vernant. Ces personnalités exprimaient leur inquiétude devant la montée de l'extrême droite et sa stratégie de légitimation. Cette stratégie, écrivait-elle, se nourrit de la dernière thèse à la mode qui dénonce l'antiracisme comme à la fois ringard et dangereux. Et un peu plus loin, nous craignons de voir prochainement se banaliser dans notre vie intellectuelle la présence de discours qui doivent être combattus parce qu'ils menacent à la fois la démocratie et les vies humaines. Nous ne pouvons en effet oublier que les propos de l'extrême droite ne sont pas simplement des idées parmi d'autres, mais des incitations à l'exclusion, à la violence, au crime. Edoui Plenel, qui était journaliste du Monde à l'époque et qui est aujourd'hui président du site d'information Mediapart, fait reparaître ce texte en annexe d'un livre précisément intitulé « L'appel à la vigilance face à l'extrême droite ». Faut-il en conclure, Edoui Plenel, que la situation n'a pas changé depuis 1993 et que même elle s'est aggravée ?
Oui, bien sûr. C'est la question que pose ce livre. Sa première phrase, c'est « Que nous est-il arrivé ?» Pour bien y répondre, il faut s'accorder sur ce que définissait cet appel et ce que souligne mon livre. Qu'est-ce que l'extrême droite ? Sous différents atours, dans différentes circonstances, dans différents lieux, dans différents contextes et toutes sortes de visages. C'est la contestation de ce qui fait que nous sommes ensemble face à face aujourd'hui, Alain Finkielkraut. Notre liberté démocratique, c'est quoi ? C'est l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme. Nous naissons libres et égaux en droit, et a ajouté la Déclaration universelle en dignité, sans distinction d'origine, de condition, d'apparence, de croyance, de sexe, de genre. Cette proclamation sera toujours un scandale pour toutes sortes de conservatisme, d'obscurantisme, de traditionnalisme. Donc l'extrême droite, elle a des auteurs toujours talentueux. Elle a toujours eu un esthétisme du style. Le premier dans notre histoire française est Charles Maurras ou Maurice Barrès d'une autre manière. C'est la contestation de cette égalité naturelle. C'est l'idée que nous sommes inégaux, qu'il y a des civilisations supérieures à d'autres, des nations supérieures à d'autres, des croyances, des apparences et ainsi de suite. Et donc mon livre est un hommage à celles et ceux qui nous ont posé une question qui est plus actuelle que jamais, et qui est aujourd'hui dans notre espace public français. Il est clair que ces idées de l'inégalité naturelle, de la stigmatisation de l'autre, qui ouvrent toutes sortes de poupées gigognes, et tout le monde en a pour son grade, peuvent s'ébattre dans l'espace public, dans des radios, dans des télévisions, en accès libre. Et cette responsabilité que nous avons à l'égard du débat public, c'est cette question, et je le déplie dans l'essai, que posaient tous les signataires que vous avez cités. Et il faudrait en souligner une qui était très importante dans ce contexte, Nicole Laureau, une très grande helléniste. Et il posait au fond, la démocratie, c'est pas simplement le droit de vote, c'est pas simplement des élus, c'est un état de l'espace public, du débat public. Et c'est d'ailleurs le dernier mot de cet essai, en hommage à Maurice Olinder, qui était un philologue, et il disait que cet appel à la vigilance, c'était un geste philologique, c'est-à-dire faire attention aux mots. Et ce dernier mot, vous savez, c'est le mot scrupule. qui vient du latin, qui veut dire un petit caillou. Le petit caillou dans la chaussure des légionnaires, ou la sandale des légionnaires, qui, au fond, les obligeait à s'arrêter. Ce que, d'une autre manière, Jean-Pierre Vernant dit dans un livre édité par Maurice Olinder, le grain de sable qui bloque toutes les machines. Et puisque vous disiez qu'est-ce que la vigilance, il faut se rappeler que vigilant, le mot vigilant, vient aussi du latin, qui veut dire faire attention, prendre avec soin, être précautionneux. Eh bien voilà, nous devons avoir un peu de scrupule sur l'état de notre débat public. Et donc, au fond, tout ne peut pas se dire et l'on ne peut pas dire dans l'espace public, et y compris c'est pénalisé dans le code pénal, on ne peut pas dire la haine de l'autre, la stigmatisation et ainsi de suite.
Bien, vous dites il faut être scrupuleux sur le choix des mots. Vous citez Maurice Olinder. Alors, prenons un mot que vous utilisez à plusieurs reprises dans ce livre et dans des livres précédents, le terme d'islamophobie. Vous dites par exemple que le printemps républicain, fondé par Laurent Bouvet, est un mouvement ou un parti islamophobe. Vous êtes d'accord avec Enzo Traverso, le philosophe, pour dire que l'islamophobie joue pour le nouveau racisme le rôle qui fut jadis celui de l'antisémitisme. Alors ma question, qu'est-ce que vous appelez islamophobie et jusqu'où va ce parallèle entre islamophobie et antisémitisme, Edwy Plenel ?
Je vais vous répondre, sachant que votre première question est au fond sur un sujet qui, j'allais dire, vous préoccupe, est une sorte de refrain de préoccupation chez vous. Mais je voudrais d'abord dire quand même que dans cet essai, je rappelle toute la démarche de Maurice Olinder, qui était aussi un historien, qui était un disciple de Léon Poliakov, qui a déconstruit la façon dont on construit justement des mythes identitaires qui sont des pièges. Le mythe arien a été dénoncé par Poliakov et le livre le plus important, j'allais dire, de Maurice Olinder, c'est une déconstruction de ce couple terrible arien et sémite, cette façon de renvoyer les autres à une identité fantasmée. On peut tout à fait discuter la rigueur des mots. L'islamophobie dit simplement ceux qui créent une sorte de détestation, de contestation de l'islam en tant que tel, d'une religion en tant que tel, des musulmans en tant que tel. La critique du totalitarisme, qui est d'extrême droite, obscurantiste des mollahs iraniens. Et d'ailleurs, Mediapart a organisé une grande réunion publique au 104, la seule à Paris, en solidarité avec la révolution iranienne. La critique de tous ces intégrismes qui se réclament de l'islam, comme d'autres religions ont aussi leur intégrisme, est une chose. La stigmatisation en bloc d'une communauté en est une autre. Et donc, c'est tout simple. Et je ne comprends pas à la limite que l'on s'en alarme. Nous, ce que nous disons, les vigilants, ceux qui font attention, c'est de tenir tous les bouts sur toutes les stigmatisations, quelles qu'elles soient. Vous le savez, sur l'Ukraine, Mediapart n'est pas, et moi-même, je ne suis pas en arrière de la main, et face à l'impérialisme russe, je suis là. Mais si je suis face à l'impérialisme russe et à sa contestation du droit international, sa violation, ses crimes, sa logique de domination, je le suis au nom d'un genre humain, d'un droit international qui vaut partout. Et par exemple, qui vaut aussi pour le sort des Palestiniens et ce que fait aux Palestiniens l'extrême droite israélienne actuellement. Il faut tenir tous les bouts. C'est cela être, au fond, pour moi, et c'est notre vieux point de désaccord à la même école péguiste, qui est, Péguy tenait tous les bouts. Ne pas choisir une indignation, en l'occurrence, dans votre question, la critique, et évidemment qu'il y a un totalitarisme qui s'est réclamé de l'islam, mais il n'y a pas d'équivalence entre ce totalitarisme et les musulmans en général, et l'islam en général. Donc, tenir tous les bouts, ne pas avoir des vigilances aveugles, des vigilances campistes, des vigilances qui soient hémiplégiques.
Tout à fait d'accord avec vous sur ce point. Et la question de l'islamophobie n'est pas mon obsession. Alors je préciserai un peu les choses. Je suis d'abord étonné en effet que vous qualifiez d'islamophobe le mouvement créé par Laurent Bouvet, mais je donnerai d'autres exemples et je vous demanderai ce que vous en pensez. J'ai ici sous les yeux un recueil d'articles de Jean Daniel intitulé « Comment peut-on être français ?» Jean Daniel rappelle qu'il parlait de cette question, de la question de l'intégration au président de la République de l'époque, c'est-à-dire François Mitterrand, qui ne voyait pas le problème. Alors Jean Daniel a eu courage de lui dire « Président, le pays est en train de changer, le clocher de votre affiche électorale dans peu de temps, vous le verrez entouré par deux minarets. » Premier exemple. Deuxième exemple, Elisabeth Van Inter, qui écrit en préface à un livre coordonné par Georges Bensoussan, Une France soumise, « Une seconde société s'impose insidieusement au sein de notre République, tournant le dos à celle-ci, visant explicitement le séparatisme, voire la sécession. » Alors, je vous pose la question. Pour vous, Jean Daniel et Elisabeth Van Inter sont-ils effectivement contaminés par ces idées d'extrême droite que déjà mettait en cause l'appel à la vigilance?
Pardonnez-moi, mais nous sommes quand même toujours sur la même obsession de la question musulmane.
Mais pourquoi obsession ?
Si, puisque ce n'est pas le sujet central de mon livre, donc vous voyez bien que vous veniez tout de suite sur ce terrain-là. Mais je vais vous répondre, hein, je ne me dérobe pas et je ne répondrai pas en termes de contamination, ce sont des mots qui me sont étrangers. L'extrême droite n'arrive jamais par fatalité au pouvoir, et vous savez très bien qu'elle est aux portes du pouvoir en France dans l'élection présidentielle prochaine, après deux fois où elle fut au second tour. Et je rappelle qu'historiquement, l'extrême droite en Europe, en 1922 en Italie, en 1933 en Allemagne, est arrivée au pouvoir par des élections. Donc elle arrive par un relâchement, par des glissements progressifs, par des abandons. Ce que Walter Benjamin disait, la catastrophe, c'est que tout continue comme avant. On s'habitue à des choses. En l'occurrence, on s'habitue à quoi dans les mots que vous avez cités? On s'habitue à fantasmer nos compatriotes d'origine, de culture ou de croyance musulmane liés à une longue histoire française de projection sur le monde, de projection notamment sur l'Afrique, à les fantasmer comme un corps étranger, comme un corps qui serait en séparation, comme un corps qui serait en train de nous coloniser à son tour. Or, vous le savez, ces mots-là, ce sont des mots qui accompagnent d'autres mots qui sont dans le débat public, hélas, aujourd'hui, et qui sont des mots, pour moi, criminels, meurtriers, comme je l'explique, et très clairement, et je le démontre, je crois, dans mon livre, ce sont ces deux mots simples de grand remplacement employés par Renaud Camus, qui les a théorisés, diffusés par Michel Houellebecq, écrivain extrêmement connu aujourd'hui, et évidemment propulsés par un journaliste venu de la gauche, du camp national-républicain, qui fut l'éditorialiste du principal journal de la droite et une figure du service public, je veux dire Éric Zemmour. Qu'est-ce que c'est que le grand remplacement? C'est une idéologie meurtrière d'origine européenne. Il y en a d'autres, hein, d'idéologies meurtrières, mais c'est une idéologie meurtrière d'origine européenne, car elle crée cette idée fantasmée, comme il y a eu d'autres fantasmes racistes. Et quand on dit la France juive, Édouard Drumont, quand il publie ça, si on lui avait dit, vous savez, vos mots, monsieur Drumont, dans 40 ans, ils vont produire des crimes. Ils ont dit, mais vous attaquez à ma liberté de parole. D'ailleurs, son journal s'appelait La Libre Parole. Vous m'empêchez de dire une opinion. Vous me caricaturez. Eh bien, je dis la même chose. Je dis la même alerte. Quand on dit grand remplacement, on dit qu'il y a une partie de notre peuple. Et d'ailleurs, il l'a dit explicitement dans une interview récente, un dialogue récent à Front Populaire, Michel Houellebecq. Eh bien, qu'il y a une partie de notre peuple qu'il faudrait effacer. Soit qu'il se rende invisible, donc qu'il ne soit plus musulman d'apparence, soit que progressivement, il ne soit plus là, soit qu'il reparte, et c'est d'ailleurs, les citations sont dans mon livre, le projet que ces personnes accompagnent, ils appellent ça la remigration. C'est un projet criminel, c'est un projet qui appelle à de la violence, et c'est un projet qui suscite des violences ordinaires auxquelles nous sommes trop peu attentifs. Alain Finkielkraut, nous chroniquons sur Mediapart ces réalités de la haine ordinaire face à des migrants, face à l'accueil, face à l'hospitalité.
Vous parlez de fantasme, Edoui Plenel. Je pense personnellement que c'est un fantasme, c'est une manière de vivre dans une réalité parallèle que, précisément, de tracer une analogie entre l'islamophobie supposée et l'antisémitisme des années 30. C'est un fantasme parce que ça fait l'impasse sur la réalité de plus en plus massive d'un antisémitisme islamique. Parlons de la Suède, oublions la France. Malmö, troisième ville suédoise, est aujourd'hui Judenheim. Et personne au monde ne peut croire que c'est lié à un renouveau de l'antisémitisme suédois. Deuxièmement, le grand remplacement. Alors que les choses soient claires, j'ai dialogué avec Renaud Camus, notamment sur l'antenne de France Culture. D'ailleurs, vous le rappelez dans votre livre. Mais je suis obligé de me citer pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté. Déjà dans la seule exactitude, j'ai dit, je ne reprends pas cette expression à mon compte, car elle a immanquablement pour effet de transformer toutes les personnes d'origine turque, arabe ou africaine en envahisseurs. On a besoin de concepts pour penser la réalité humaine, mais on ne doit pas laisser les concepts réduire les êtres humains à des spécimens. Les choses, donc, sont clarifiées, je l'espère, mais j'entends, pour ma part, célébrer le grand remplacement, par exemple, par la journaliste Rokhaya Diallo. Changer d'identité est inexorable. La France change de visage. Elle change de religion majoritaire. Ce n'est pas grave. Ouria Boutelja, fondatrice des Indigènes de la République. Notre présence sur le sol français africanise, arabise, berbérise, créolise, islamise, noirise la fille aînée de l'Église, jadis blanche et immaculée, la romancière Leonora Miano. Vous avez peur d'être minoritaire culturellement, n'ayez pas peur de quelque chose qui va se passer, l'Europe va muter, cette mutation peut être effrayante pour certains, mais ils ne seront pas là pour voir l'aboutissement. Autrement dit, quand le grand remplacement est critiqué, c'est du racisme, quand le grand remplacement est célébré, eh bien, c'est merveilleux, c'est un rêve qui se réalise. Là, je vois quand même une certaine contradiction dans le rapport à ce thème. Edoui Plenel.
Vous connaissez cette formule dans ce texte qui fut publié à titre posthume de Peggy, dans la note conjointe sur Descartes, « Il faut penser contre soi-même ». Savoir penser contre soi-même, rien de plus douloureux. En l'occurrence, vos questions m'amènent à convoquer ce souvenir. Je n'ai pas écrit pour les musulmans cette fois. C'est un livre qui est paru en 2014 et dont nous avons débattu. Et vous me questionnez comme si j'avais republié pour les musulmans. Donc j'en reviens à mon propos, je suis désolé pour les auditeurs et auditrices de France Culture, de ce livre. La question, l'origine ne protège de rien, vous savez, Alain Finkielkraut. Nous le savons tous. Seul le présent fait preuve. La question n'est pas de dire un tel et de se jeter des mots ou des noms comme ça. La question, et c'est la question que vous posez en intitulé de cette émission, qu'est-ce que la vigilance ? Vous le savez bien et nous l'avons sous les yeux. Nous avons un monde aujourd'hui où sous des atours différents, il y a la remise en cause de la prise de conscience qu'a provoquée la catastrophe européenne. La Déclaration universelle des droits de l'homme, écrite par René Cassin, grande figure du judaïsme laïque français, et qui disait qu'il ne faut pas faire confiance aux États, aux nations, que les États et les nations peuvent devenir monstrueux. Cette déclaration universelle dit que les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. De cette déclaration universelle proclamée à Paris sont nées l'Organisation des Nations Unies. L'idée qu'il doit y avoir un dialogue, qu'il doit y avoir un droit international, qu'il y a un genre humain. Or, vous voyez bien ce qui se défait sous nos yeux et dont notre débat public, justement, peut être le complice ou l'accompagnateur. Je le cite à la fin du livre en rendant hommage à Maurice Olinder, dont le père fit son alia et est mort à Jérusalem. La Bible, aujourd'hui, de beaucoup de xénophobes, néo-conservateurs, des trumpistes, suprémacistes blancs, des brexiteurs, ou ici même d'une partie de l'extrême droite, sa traduction est préfacée par une personnalité de l'extrême droite française, Gilles William Golnadel, est l'essai d'un intellectuel israélien, Yoram Hazoni. D'ailleurs, il y a eu une réplique, je le montre, d'un de ses compatriotes à tout ce qu'il convoquait, qui est Zev Sternel, dans son livre sur Maurice Barrès. Quel est ce livre ? Il a été traduit en 2018 en France. « Vertu du nationalisme ». Ce livre, au fond, c'est de tirer l'échelle sur tout ce que je viens de rappeler. C'est de théoriser ça, théoriser, il n'y a plus de genre humain, ce qui est bon, c'est ce qui est bon pour ma nation. Et la nation est souvent ramenée du coup à la tribu, à une identité majoritaire qui doit se préoccuper des minorités à condition qu'elles acceptent cette règle de la majorité. Et donc il n'y a plus de droit qui s'impose, de droit international. Je dis ça parce que nous avons toutes sortes de visages qui se rejoignent. Quel est le point commun entre M. Poutine et son agression actuelle, entre nos extrêmes droites en France, entre les mollahs iraniens, entre le régime saoudien et entre l'extrême droite qui, hélas, est aujourd'hui au gouvernement et au pouvoir en Israël. Je donne cet exemple, et dont nous pourrions parler plutôt que de parler des musulmans, c'est la NDLGBT. Ce sont des législations qui diabolisent le fait d'avoir un genre minoritaire, vous le voyez dans tous les discours de Poutine, vous le voyez dans le discours du président iranien, et vous le voyez dans des propositions qui sont faites, dans toutes les atteintes qui sont faites à la démocratie israélienne aujourd'hui. Je cite dans mon livre que la figure intellectuelle qui accompagne M. Poutine et qui est un polyglotte, il s'appelle Alexandre Douguine, il a échappé à un attentat, c'est le correspondant depuis 1992 de la nouvelle droite française, car nous sommes quand même le pays qui a inventé la nouvelle droite et qui a inventé le grand remplacement. Et en 92, il reçoit Alain de Benoît et il fait l'éloge, hein, et Alain de Benoît dit au fond la lumière se lève à l'est de ce monde-là. Ce même jour, M. Douguine, avec Édouard Limonov, qui a fait un tour par Paris, crée le Parti National Bolchevique, en d'autres termes, la révolution conservatrice ou les rouges bruns. Parlons de ça, Alain Finkielkraut. Parlons de ça qui nous rattrape. Parlons de ça qui traverse toutes sortes de sociétés, et y compris les sociétés musulmanes. Mais c'est ça qui traverse nos sociétés aujourd'hui, et c'est de cela dont nous devons parler, et c'est en tout cas l'alerte que j'ai voulu faire.
Oui, mais vous ne pouvez pas faire d'amalgame non plus. C'est-à-dire tous ceux qui s'inquiètent pour le vivre ensemble, précisément, qui voient la société française se fragmenter inexorablement, et qui se demandent si même elle ne se libanise pas, n'ont strictement rien à voir avec les nationaux bolcheviques dont vous parlez et que je condamne comme vous, premièrement. Deuxièmement, le nationalisme doit être combattu, mais il me semble souvent qu'à Mediapart, pour vous, on est déjà nationaliste quand on veut défendre les frontières et réguler et ralentir les flux migratoires. Et pourtant, c'est un grand philosophe de gauche, l'Américain Michael Walzer, qui écrit dans Sphère de justice, « Abattre les murs de l'État n'est pas créer un monde sans murs, c'est plutôt créer un millier de petites forteresses. » Donc, la réflexion sur les frontières ne relève pas du nationalisme, la défense des frontières, ni a fortiori de l'extrême droite, premièrement. Et deuxièmement, on arrête, puisque vous le souhaitez, de parler de l'islam et de l'islamophobie. Je vais vous raconter un fait divers survenu le 1er octobre 2021 à Lyon. Et il est raconté par André Perrin dans son livre « Posture médiatique ». Deux couples d'amis rentrent dans une soirée. Les deux hommes marchent devant, les deux femmes derrière. L'une des jeunes femmes, Emma, est abordée par deux individus qui lui adressent des propositions relevant de ce qu'on appelle la drague lourde. Elle décline leurs invites et, devant leur insistance, leur rappelle que le harcèlement de rue est interdit par la loi, ce qui lui vaut d'être traité de « sale pute ». Son petit ami Florian s'interpose alors, quelques coups sont échangés et les quatre amis s'éloignent, suivis par les agresseurs, dont un lance « Nique-lui bien sa mère à ce fils de pute de blanc ». De nouveaux agresseurs sont ainsi rameutés et c'est un groupe de 8 individus qui se livre à un tapassage en règle du jeune homme au cri de « sale blanc ». Et là, je vous pose la question. Existe-t-il une francophobie en France, un racisme anti-blanc, et Mediapart s'en est-il jamais fait l'écho, Edoui Plenel. Vous voyez qu'on ne parle pas...
Aucune, l'origine...
Mais
on parle toujours des mêmes choses. L'origine ne protège de rien. Donc il y a du racisme, il y a de la bêtise, il y a de la violence, il y a du préjugé qui peut traverser toutes les sociétés et toutes les origines. C'est tout à fait mon propos et c'est tout à fait ce qui illustre le travail journalistique de Mediapart. Simplement, et puisque vous parliez de la nation... Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que la crise ukrainienne a rappelé ça à une partie de la gauche qui est aveugle, qui est enfermée dans un campisme d'un autre monde. Il y a un nationalisme ukrainien qui peut avoir des excès, y compris vis-à-vis de la culture russe. Il y a toujours des nationalismes qui peuvent avoir des abus. Je ne comparerai pas, je ne mettrai jamais sous équivalence le nationalisme d'une puissance dominante, d'une puissance qui occupe, d'une puissance qui domine, d'une puissance qui opprime, et le nationalisme de celles et ceux qui veulent s'en libérer, quitte ensuite à veiller et à combattre les excès que ce nationalisme peut créer. C'est de la même manière. Bien sûr que ce fait que vous rappelez par un essayiste, il faudrait faire une enquête journalistique, le recouper, le sourcer. Hein, il ne suffit pas de dire « j'ai été témoin de ça », c'est notre travail à nous journalistes, hein, de recouper et de sourcer. Eh bien, évidemment que ce fait existe et qu'il est condamnable. Est-ce que de ce fait, vous devez déduire qu'aujourd'hui, le problème dominant de la France, c'est la situation des Blancs en France ? Est-ce que le problème dominant de la France aujourd'hui, c'est celui-là ? Voyez bien que là, vous êtes dans une bulle, je crois, de mon point de vue, dans une bulle, oui, je me permets de vous le dire, dans une bulle, et vous devriez mieux nous lire, dans une bulle sociale. Voyez, quand vous parliez du vivre ensemble, ben le vivre ensemble, il se fait actuellement aujourd'hui. Il se fait, et c'est un fait peut-être que nous devrions évoquer quand même, depuis le 19 janvier, ce sont les manifestations, on en est à 6, les plus massives de toute l'histoire de France depuis la Deuxième Guerre mondiale. L'ensemble des organisations syndicales, de la CFTC, qui est plutôt à droite, à Sud, qui est plutôt à gauche. Une unité sans pareil de la CGT et de la CFDT. Les causes communes de l'égalité, car... Encore une fois, cet article premier de la Déclaration des droits de l'homme, c'est ce qui permet qu'il y ait des droits sociaux, des droits démocratiques, des droits des femmes, des droits des minorités, hier des droits des colonisés, et ainsi de suite. Et donc, voyez bien que c'est là que ça se joue. C'est quand je dis sortir de sa bulle, c'est de se dire, tiens, mais il se passe quelque chose dans ma rue, il se passe quelque chose dans ma ville, il se passe quelque chose dans ma société. Ce mouvement social, sur une question essentielle qui est de solidarité dans les sociétés. Je rappelle, la sécurité sociale est un acquis aussi de post-catastrophe européenne. Cette idée que les sociétés doivent être tenues par ces solidarités entre générations. C'est une loi de 1950 qui reconnaît les organisations syndicales qui font partie du jeu démocratique. 58, l'assurance chômage, tout ça. C'est là que se font les causes communes de l'égalité. Pourquoi je vous dis ça ? C'est quand vous regardez ces cortèges, quand vous regardez ces mouvements sociaux, eh bien vous voyez des gens de toute origine, des gens de tout milieu. Qu'est-ce qui les unit ? Il les unit le fait qu'ils ont en commun leur travail. C'est là que se crée un avenir et une espérance, non pas dans l'obsession de l'identité. Vous voyez bien que quel est l'adversaire de l'égalité ? C'est l'obsession de l'identité. Et c'est bien... Ce à quoi j'appelle dans ce livre, c'est à réhabiliter ce combat des causes communes de l'égalité pour ne pas tomber dans ce piège où, au fond, il n'y a plus que cette obsession, cette peur, cette crainte d'une identité qui serait menacée, d'une identité qui serait en péril, d'une identité qu'il faudrait protéger. Et c'est sans aucun doute cette sensibilité-là, puisque nous ne parlons pas que de raisonnement, là, qui nous partage.
Très bien. Mais la solidarité entre les générations, ça peut être aussi de mettre l'âge de la retraite à 64 ans pour éviter la faillite de notre système de répartition. Du moins, c'est un argument écoutable.
Michaël Zemmour, économiste remarquable, a fait litière de l'ensemble de ces arguments, ainsi que le Conseil national des retraites. Donc factuellement, tout cela... ne tient pas, c'est un argument d'autorité, celui du gouvernement, qui n'est pas pertinent.
Bon, écoutez, ce n'est pas l'objet de notre débat, Edoui Plenel, mais ces manifestations se déroulent, Et d'un autre côté, je suis obligé quand même de rappeler ce qu'est aujourd'hui la situation des Juifs en France. Ils sont obligés de quitter massivement la Seine-Saint-Denis. J'ai ici le livre de Jean-Pierre Aubin, « Comment on a laissé l'islamisme pénétrer l'école ». Jean-Pierre Aubin a dirigé, comme vous le savez, une enquête pour le ministère de l'Éducation en 1964 sur les signes et manifestations religieuses à l'école. Et il raconte dans ce livre beaucoup plus récent que le doyen de l'inspection, au moment où il faisait cette enquête, a discuté avec des professeurs de collège ou de lycée, et ceux-ci évoquaient devant lui le départ de leurs élèves juifs. Et il leur demandait ce qu'ils en pensaient, il leur demandait leur avis sur la cause de ces départs. C'est simple, ils n'étaient pas assez nombreux pour se défendre. Voilà, donc ça c'est aussi une réalité qu'il faut prendre en compte. Mais justement, je poserai la question de la manière suivante. La presse scrupuleuse, c'est le mot que vous avez utilisé, c'est celle qui dit bêtement la vérité bête, ennuyeusement la vérité ennuyeuse, tristement la vérité triste.
La lettre du provincial de Charles Péguy, voilà. Dans le numéro 1 des cahiers de la quinzaine.
Absolument, et c'est notre référence à tous les deux, Péguy, depuis toujours. La presse vigilante, en revanche, c'est celle qui censure systématiquement les faits qui, d'une manière ou d'une autre, pourraient faire le jeu de l'extrême droite. Donc, silence sur la banalisation des violences antipolicières ou contre les pompiers, silence sur ce qui se passe aujourd'hui dans l'école de la République. C'est le cas notamment du journal que vous avez quitté, Edwy Plenel, mais sur ce point, restez de la même sensibilité que vous. Et personnellement, je préférais la presse scrupuleuse plutôt que la presse vigilante, Edwy Plenel.
Alain Finkielkraut, j'invite toutes celles et tous ceux qui nous écoutent à aller s'abonner à Mediapart, puisqu'il faut s'abonner pour le lire, et à lire par exemple nos chroniques de la haine ordinaire. Ce que vous n'avez sans doute pas fait, et vous y verrez que l'antisémitisme aujourd'hui en France y est tout à fait traité. Pas seulement dans les milieux sociaux dont vous parlez justement, y compris avec un témoignage d'un des jeunes animateurs des organisations juives qui tiennent tous les bouts. Vous savez qu'il y a des organisations juives, dans la jeunesse juive, qui combattent aussi et qui acceptent ce mot d'islamophobie, qui combattent tous les bouts, de tous les bouts, puisqu'ils combattent aussi pour rappeler à la gauche antiraciste que l'antisémitisme n'a évidemment pas disparu en France et il ne peut pas disparaître quand on laisse revenir le racisme, quand on laisse revenir le préjugé, quand on laisse revenir des Renaud Camus qui sont repris ensuite par des Houellebecq. Vous connaissez très bien notre désaccord originel autour de Renaud Camus, c'est quand il se mettait à compter les patronymes juifs sur France Culture. Et donc j'en reviens, les chroniques de la haine ordinaire racontent par exemple cet antisémitisme banal dans des grandes écoles françaises, dans des grandes écoles de commerce. Tout ça est sur Mediapart. Nous ne cachons pas ces réalités, mais nous tenons tous les bouts. Voyez ce que je disais, penser contre soi-même. Et j'accepte ce jeu-là, mais ce livre auquel je tiens beaucoup, parce que c'est un hommage à une belle personne et à un beau combat et à ce chemin de Maurice Olinder, à de belles figures, des personnes un peu à part. Tout le monde a salué l'éditeur, mais on a oublié l'historien. Et donc, je fais ce livre autour de toute cette histoire que j'essaye de déplier. Et je me retrouve devant vous, et où j'ai l'impression que vous sortez vos fiches. Vous sortez vos fiches habituelles.
Quelles fiches ?
Mais non, mais vos fiches, au sens vos dossiers d'obsession, comme je le redis.
Quelles obsessions ?
Mais elles sont là. Il suffit de vous suivre dans l'espace public, de voir quelles sont vos prises de position, et qui sont récurrentes. C'est-à-dire que vous ne prenez pas le nouvel objet qui est devant vous, et quelles interrogations il vous pose, et vous revenez à cela. C'est ce qui nous différencie, y compris sur ce métier. C'est quoi penser, dire bêtement la vérité bête, ennuyeusement la vérité ennuyeuse, tristement la vérité triste, cette presse scrupuleuse dont je crois je me revendique et je crois que je dois être jugé là-dessus, comme je l'ai toujours dit. Vous pouvez penser ce que vous voulez de moi, de ce que je dis, mais jugez-moi sur les faits, jugez-moi sur les enquêtes, jugez-moi sur les faits que j'ai révélés sous ma signature ou que Mediapart a révélés depuis 15 ans, de son intérêt public. Et donc, quel est ce travail ? C'est de nous amener à regarder ce que nous ne voulons pas voir. Et ce qui me frappe, dans ce que j'ai appelé vos obsessions, c'est qu'au fond, ce qui nous différencie et ce qui vous écarte du travail qui est le mien, de ma responsabilité démocratique, c'est qu'au fond, ce que je vous mets sous les yeux, Alain Finkielkraut, c'est les réalités que vous n'avez pas envie de voir. Nous avons eu des divergences dans le débat public et vous avez eu des mots très sévères sur Mediapart à propos de MeToo. Nous avons eu des divergences et vous avez eu des mots très sévères à propos de nos révélations sur la corruption et sur la morale publique. Nous avons, à l'évidence, des divergences sur notre travail que nous faisons sur les discriminations. Et donc, c'est très simple, c'est-à-dire qu'au fond, il y a un côté de votre part et de peut-être une partie du monde qui vous entoure, de se dire, mais au fond, ces réalités qu'il nous met sous les yeux, nous n'avons pas envie de les voir. Or, je vous rappellerai, vous avez dit que j'avais tort de me revendiquer d'Albert Londres. Albert Londres disait une formule très péguiste, notre métier n'est pas de faire plaisir, non plus de faire du tort, il est de porter la plume dans la plaie. Donc, nous portons la plume dans la plaie. Nous apportons ce qui va un peu vous bousculer, vous discuter, vous obliger à vous mettre en cause vous-même.
Oui, vous apportez la plume dans la plaie, Edoui Plenel. Alors, je rappelle le livre de Daniel Lindenberg.
Bien sûr, auquel citez, je rends hommage.
Auquel vous rendez hommage. Et quand vous dirigiez la rédaction du Monde, il y a eu un article en première page de Nicolas Veil et Jean Birnbaum célébrant ce livre. Le rappel à l'ordre, enquête sur les nouveaux réactionnaires. Vous n'avez pas enquêté d'ailleurs sur les ONG, ça aurait été très intéressant. Il a été commandité à Daniel Lindenberg par Pierre Rosanvallon, qui en a profité pour faire sauter l'Institut Raymond Aron qu'il dirigeait avec Pierre Manant et Marcel Gauchet. Pierre Manant et Marcel Gauchet étant les cibles parce que le livre de Daniel Lindenberg est une liste noire de mauvais penseurs qui regardent pas. Je suis évidemment dans cette liste, notamment parce que j'ose parler d'une vague d'antisémitisme dont la réalité en tant que telle reste pourtant sujette à caution. Et le livre a été republié en 2018 et Rosanvallon l'a célébré comme un livre prémonitoire. Mais qu'est-ce que vous avez fait, vous, Edoui Plenel, qui pensez contre vous-même? Vous avez reçu Lindenberg sur LCI, vous vous souvenez de votre émission. Et donc, il a parlé sur LCI, il a mis en cause ces gens de la manière la plus violente, parce que c'est des islamophobes, c'est des racistes, Pierre Manant étant l'une de ses cibles préférées, l'une des plus grandes figures de la philosophie d'aujourd'hui. Trois semaines après Edoui Plenel, vous l'avez réinvité pour vous étonner avec lui de la haine qu'il avait suscitée. Jamais vous n'avez eu l'idée d'inviter l'une de ses cibles. Je dis pas moi, je vois pas judéo-centré le monde entier, mais Manant, par exemple.
Lindenberg est juif, lui aussi.
Oui, je sais. Ou Philippe Muret, parce que c'était la Dream Team quand même. C'était bon, la Dream Team. Vous voyez bien, écoutez, vous ne pensez pas contre vous-même et vous avez précisément présider à ce grand retour des listes noires qui empoisonnent notre vie intellectuelle depuis le début de ce siècle.
Aujourd'hui, ce n'est pas l'académicien que vous êtes devenu qui me contestera. Je crois que toutes les personnes dont vous parlez ont tout à fait leur reconnaissance dans l'espace public et ce sont plutôt les points de vue que je défends ou les informations que nous révélons qui ont plus de mal à faire leur chemin dans l'espace public. Je ne répondrai pas à vos attaques ad hominem sur Pierre Rosanvallon et Daniel Lindenberg. Daniel n'est plus là pour se défendre, mais Pierre Rosanvallon est là et tient bon sur des principes démocratiques essentiels. Et je lui rends hommage, y compris dans les colonnes de Mediapart cette semaine à propos des retraites. Nous avons là des gens qui défendent une vision réelle, vitale, authentique, et non pas crispée, non pas affolée, non pas replié de la démocratie. Et oui, Daniel Lindenberg, comme plus récemment Michael Fessel avec 1938 Récidive.
Ah, Récidive. Voilà. On recommence. Voilà.
Mais c'est la même chose. Dites.
Donc c'est vous qui vivez dans une réalité
mais
parallèle.
Je pense que, en tout cas, nous essayons de démontrer des choses, de montrer des choses auxquelles vous êtes indifférents. Je pense que depuis le début de cette émission, nous ne parlons pas du tout de ce qui est le sujet que j'ai voulu mettre et que je documente dans ce livre. Le fait qu'aujourd'hui, et ça ne semble pas vous émouvoir, Alain Finkielkraut, dans l'espace public français, et je dis bien français, car l'espace public italien, espagnol, allemand, britannique, n'est pas aussi dégradé. Je parle bien de l'espace public, s'ébattent en liberté des idéologies antidémocratiques qui défendent, au fond, l'inégalité naturelle, qui défendent l'idée que des hommes sont supérieurs aux femmes, que des sexes sont supérieurs à d'autres, des gens supérieurs à d'autres, des religions, des croyances, des apparences sont supérieures à d'autres. Eh bien, ce venin-là, ce poison-là, c'est une catastrophe, et c'est une catastrophe si nous le laissons se répandre. Je fais partie de ceux qui appellent à non seulement être vigilants, mais à y faire face. Vous semblez être de ceux que cela n'émeut pas particulièrement.
Non, je ne crois pas que ma position puisse être ainsi définie, mais je laisse aux auditeurs le soin d'en juger. Alors simplement, vous dites dans votre livre, Edwy Plenel, la liberté de parole est devenue l'alibi de la libération du racisme. Alors, pensez-vous, comme Geoffroy de la Ganarie, qui s'exprimait le 30 septembre 2020 sur l'antenne de France Inter, à la matinale, pensez-vous donc que nous perdons notre temps, je cite Geoffroy de la Ganarie, lorsque nous allons dans les chaînes d'infos débattre avec des gens inconvaincables, nous ratifions la possibilité qu'ils fassent partie de l'espace du débat, j'assume le fait qu'il faut reproduire un certain nombre de censures dans l'espace public pour rétablir un espace où les opinions justes prennent le pouvoir sur les opinions injustes. Je rappelle aussi que Geoffroy de la Ganarie, avec Édouard Louis et Didier Ribon, avait appelé au boycott des rencontres de Blois parce que Marcel Gauchet, converti selon vous au conservatisme le plus rance, Marcel Gauchet donc tenait la conférence inaugurale. Est-ce vers cela qu'il faut aller justement pour être authentiquement et efficacement vigilant?
La réponse est à la première page de l'appel à la vigilance, où je pense comme Jean-Pierre Vernon. Jean-Pierre Vernon, ce grand philosophe, grand helléniste, qui fut aussi un grand résistant, compagnon de la libération après la résistance à Toulouse. Il eut cette formule, lui qui fut un des signataires de l'appel à la vigilance de 93, il eut cette formule ironique mais très parlante, on ne discute pas recettes de cuisine avec des anthropophages. Oui, les idées d'extrême droite, comme je les ai définies, c'est-à-dire la négation de l'égalité, nous ne les débattons pas, nous les combattons. Je ne vais pas aller débattre de savoir si les hommes sont supérieurs aux femmes. Je ne vais pas aller débattre sur la supériorité de telle ou telle religion sur une autre. Je ne vais pas aller débattre de la supériorité de telle apparence sur une autre, de telle civilisation sur une autre. Je vais aller défendre l'égalité sans distinction d'origine. Cette philosophie-là, cette position-là, Alain Finkielkraut, elle est celle d'Anna Arendt. Dans ce que vous disiez sur la liberté de dire, ma référence, c'est un texte d'Anna Arendt qui s'appelle « Vérité et politique »,« Truth and Politics » de 1967 dans le New Yorker, où Anna Arendt dit « Le débat démocratique, et c'est bien ce qui nous menace aujourd'hui et qui est amplifié avec toute la libération par le numérique de l'expression. Un débat démocratique, c'est pas mon opinion contre la vôtre. C'est pas mon préjugé contre le vôtre. C'est pas mon identité contre la vôtre. Si c'est cela, c'est la guerre de tous contre tous, dit Hannah Arendt. Pour qu'il y ait un débat informé, un débat démocratique, il faut nous donner les moyens, d'où l'importance d'un journalisme indépendant et vigilant, eh bien, il faut nous donner les moyens que ce qu'elle appelait « truth of facts », les vérités de fait, soient au cœur du débat entre nous. Et donc, vous voyez bien qu'aujourd'hui, c'est la question que pose mon livre, qui est une interpellation à l'égard de l'autorité de régulation, l'ARCOM, qui doit prendre ses responsabilités. Nous avons aujourd'hui sur des chaînes hertziennes, en accès libre, radio et télévision, des chaînes d'opinion qui déversent des opinions qui contredisent les conventions qu'elles ont signées, c'est-à-dire des conventions qui leur enjoignent de respecter les blocs constitutionnels français, dont la Déclaration des droits de l'homme, dont son article premier. Comme je le dis dans le livre Alain Finkielkraut, si nous ne nous émouvons pas de ça, nous aurons ce qui est arrivé à d'autres. Et je rappelle un exemple, un pays africain, francophone, où, au nom d'une démocratisation soi-disant en cours, une radio dépose ses statuts la même année, 1993, au nom de la liberté de dire, de tout dire, et finalement de tout dire, y compris le pire, y compris l'abject. Un an après, 800 000 morts, c'est de Radio Mille Collines dont je parle, la radio qui fut celle qui a armé par ses mots le génocide dont ont été victimes les Tutsis au Rwanda, à tel point qu'on a dit que c'était un génocide avec une machette dans une main et un transistor dans l'autre. Eh bien, c'est la mise en garde que je fais. Si nous ne nous émouvons pas de ça aujourd'hui, nous aurons demain des radios Mille Collines en France.
Donc, CNews, si je vous entends bien, c'est Radio Mille Collines.
CNews est une radio qui déverse de la haine, du préjugé et des idéologies antidémocratiques. Oui.
Bien. Je peux critiquer CNews, mais je ne vois pas les choses comme vous. Et surtout, il me semble aujourd'hui qu'il est tout à fait légitime de s'interroger sur la forme prise par l'antiracisme, Edoui Plenel. Alors que vous vous dites, le problème, c'est exclusivement le racisme. Martin Mahler, le grand historien de la tragédie soviétique, a dit que le socialisme intégral, c'était pas la lutte contre le capitalisme, c'était l'abrogation du monde réel. Il y a une forme d'abrogation du monde réel dans cet antiracisme-là qui refuse de voir un certain nombre de problèmes parce qu'il résonne exclusivement par analogie. L'islamophobie d'aujourd'hui, c'est la même chose que l'antisémitisme d'hier. Et Emmanuel Todd est allé très loin dans ce sens dans son livre « Qui est Charlie ?» Hein, parce que « je suis Charlie », pour lui, ça voulait dire « je suis raciste ». Des millions de Français se sont précipités dans les rues pour définir le 11 janvier 2015 comme besoin prioritaire de leur société le droit de cracher sur la religion des faibles. Ils sont à cette occasion sortis, en dépit de leurs assertions, de l'axe central de l'histoire nationale. Et il va même plus loin parce que il dit aussi à propos des journalistes de Charlie, blasphémer de manière répétitive, systématique sur Mahomet, personnage central de la religion d'un groupe faible et discriminé, devrait être, quoi qu'en disent les tribunaux, qualifié d'incitation à la haine religieuse, ethnique ou raciale. On voit bien, là en tout cas, que l'antiracisme tel qu'il fonctionne aujourd'hui pose un grave problème à la pensée et à la démocratie. Edoui Plenel.
C'est peut-être Emmanuel Todd qui pose un grave problème. Ce n'est pas l'antiracisme. Si vous allez dans les locaux de Mediapart, la salle de réunion qui est à droite à l'entrée est pleine de dessins originaux de Charles Bettignius lors de réunions publiques que nous avions faites ensemble au moment de la création de Mediapart en défense de la liberté d'informer. Donc cette question ne s'adresse pas à moi, hein, elle s'adresse à Emmanuel Todd et je n'ai rien de commun avec le propos que vous venez de citer. En revanche, ce que je critique dans mon livre, et vous avez bien vu que mon livre en donne la généalogie sur 30 ans dans les évolutions des personnes, puisque le point de départ de l'appel à la vie de 1993, à partir de Maurice Hollander et d'autres, c'est l'émotion de se rendre compte que des personnes qui venaient de la gauche ont commencé à dire « le problème du racisme, c'est pas le racisme, c'est l'antiracisme », avec une figure centrale dans cette évolution, Pierre-André Taguieff, qui, d'évolution en évolution, en vient aujourd'hui, je le cite, dans le même numéro de Front Populaire où Onfray et Houellebecq tournent autour du grand remplacement, avec d'ailleurs Renaud Camus qui est convoqué, plus un économiste poutinien Jacques Sapir, plus d'autres figures de l'Action française, c'est-à-dire du laboratoire intellectuel de l'extrême droite. C'est une pièce à conviction exceptionnelle, ce numéro. Et nous voyons Pierre-André Taguieff, qui fut connu au départ pour ses travaux sur la nouvelle droite, justement, mais qui est presque tombé en se mirant lui-même peut-être dans ses travaux comme quelqu'un qui se penche trop. Il a été happé et il en vient, vous avez vu la citation que je donne, à parler de la mixophilie, c'est-à-dire l'amour du mélange, comme vraiment le mal qui nous menace, et de dire que ce serait l'arme secrète, il le dit lui-même, d'un grand remplacement pour remplacer la population originelle française. Je parle de ce qu'il a dit dans cet entretien. Donc, qu'est-ce que je veux souligner ? Il y a les gens qui combattent le racisme, sont divers, sont multiples. L'important, c'est de quoi ? C'est de tenir les causes communes. C'est pour ça que je vous citais, encore une fois, cette idée qu'il ne faut être indifférent à rien, ne pas être aveugle. Et donc, si il y a du racisme visant tel ou tel, eh bien, on se préoccupera du racisme visant tel ou tel autre. On ne fera pas de hiérarchie des victimes. On ne donnera pas la main à ce poison qui est celui du deux poids, deux mesures, hein, de la concurrence des victimes. C'est pour ça qu'il faut ne pas être enfermé dans sa bulle, comme je vous le disais tout à l'heure. C'est pour ça que si on est solidaire des Ukrainiens, eh bien, on doit, au nom du même droit international, être solidaire des Palestiniens. C'est pour ça que si l'on combat des actes antisémites ici en France, eh bien, on doit combattre les ravages qui ont été commis par des colons contre un village palestinien en Israël. C'est ça ma position. Elle est très clairement internationaliste.
Internationaliste,
c'est-à-dire elle est fidèle aux propos de Péguy dans Notre Jeunesse ou à sa dédicace dans sa Jeanne d'Arc pour la République universelle. Elle est, de ce point de vue, puisque vous y avez fait allusion tout à l'heure, elle est sans frontières, en effet. Il y a des États, il y a des nations, il y a leurs problèmes, mais il y a une humanité, il y a un genre humain que l'on doit pouvoir accepter, que l'on doit pouvoir protéger, que l'on doit pouvoir accueillir. L'indifférence au sort des migrants, Alain Finkielkraut, c'est comme ça aussi que commence l'indifférence à l'humanité et donc à nous-mêmes.
Bien, écoutez, merci pour cette conclusion. Je dis aussi qu'il ne faut jamais faire d'amalgame. Je rappelle donc Pierre-Andrea Traguieff a publié un livre, Le Grand Remplacement ou la politique du mythe, dans lequel il veut se tenir à égale distance de l'angélisme aveugle des adeptes politiquement corrects et du catastrophisme des nationalistes exaltés qui dénoncent à grands cris l'immigration-invasion. Par conséquent, il ne reprend pas à son compte le thème du grand remplacement dont nous parlions tout à l'heure, et je rappelle que Renaud...
Il a évolué depuis, comme je le rappelle, dans la citation précise que je donne dans
mon livre. Ça, c'est son dernier livre, enfin, peu importe.
Il reprend cette formule dans cet article du Front Populaire, c'est factuel, c'est comme ça.
Très bien, c'est comme ça, et Renaud Camus ne peut pas être là pour répondre parce qu'il n'est plus jamais invité nulle part. En tout cas, Edwy Plenel, je vous remercie de cet entretien, de l'avoir accepté, de votre sincérité. Je rappelle le titre de votre livre, L'appel à la vigilance face à l'extrême droite. Il est publié aux éditions La Découverte. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration de Corinne Amar, à la réalisation Alexandra Malka, à la technique aujourd'hui Patrick Muller. L'émission de la semaine prochaine aura pour titre Les personnages féminins dans la littérature française. Mes invités seront Jennifer Tamas et Claude Habib.